RCF.
A la orden, caballero, ¿cómo está usted? Bienvenido, chica.
Y mierda, buenos días.
Quand on se promène dans les allées du marché aux fruits de Bogota, voire même dans une grande partie du pays, on a l'impression que ça y est, la paix est revenue en Colombie après un conflit de plus de 50 ans. En septembre 2016 à La Havane, puis en novembre 2016 à Bogota, des accords de paix sont signés entre le gouvernement du président Juan Manuel Santos et les FARC, la principale force de guérilla du pays. Mais peut-on vraiment parler de paix aujourd'hui en Colombie? Pour en savoir plus, de passage à Bogota, j'ai souhaité rencontrer différents acteurs qui ont joué et qui jouent encore aujourd'hui un rôle important dans ce processus de paix. Dans les bureaux de la Conférence épiscopale de Colombie, je suis allé rencontrer Monseigneur Hector Fabio Henao. Il est le directeur de la pastorale sociale Caritas, mais également président du Conseil national de paix et réconciliation en Colombie. Monseigneur Henao a participé aux accords de La Havane.
On peut dire que le processus de paix a fait beaucoup de choses qui sont très positives. La première phase a été très bien passée parce que les guerrilleros de FARC, ils ont quitté les armes, ils ont commencé son parti politique. D'une autre façon, on a eu une réduction substantielle, importante, du nombre de personnes assassinées, déplacées. On peut dire que la situation a changé beaucoup dans la première phase du processus de paix. Après, on a commencé un deuxième moment dans lequel le focus est dans la réintégration des combattants de FARC. Ça marche d'une façon très lente. Ça, c'est une des grandes faiblesses du processus. Et on peut dire que on a la réintégration politique, ça marche parce qu'ils ont son parti politique, mais la réintégration économique et sociale, ça va d'une façon très lente. Ça est une grande préoccupation.
Mais aujourd'hui, il y a encore des groupes armés qui n'ont pas déposé les armes, comme le ELN. Ça veut dire que la paix n'est pas encore là aujourd'hui en Colombie?
Non, on peut dire qu'on a gagné beaucoup à cause de la négociation avec les FARC, mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Pour arriver à avoir une paix complète, il faut faire une négociation avec l'Armée de Libération Nationale et ELN.
Si la guérilla de l'ELN n'a pas déposé les armes en Colombie, il faut savoir également que les groupes paramilitaires, créés à l'initiative des propriétaires terriens, de l'armée et des cartels de la drogue, sont toujours présents sur le terrain. Et parfois même, ils se sont installés là où les FARC se sont retirés, ce qui entraîne des assassinats et des déplacements de population. Et puis, il est très important de comprendre également qu'en juin 2018, un nouveau gouvernement, présidé par Iván Duque, a pris les rênes du pays. Et que cette coalition de droite, soutenue par l'ancien président Uribe, est contre les accords de paix tels qu'ils ont été signés par le processus. Iván Duque et son parti étaient ceux qui ont voté non aux accords de paix lors du référendum national le 2 octobre 2016. 50,21% des votants s'étaient alors exprimés contre la paix avec les FARC. Un nouvel accord de paix avait malgré tout été signé le 24 novembre 2016 à Bogota. Pierre Lonnais, ça fait 15 ans que vous vivez en Colombie, vous êtes d'origine française, vous travaillez aujourd'hui pour Transparency International, le chapitre Colombie, c'est-à-dire une organisation spécialisée pour la lutte contre la corruption. 3 ans après les accords de paix signés à La Havane, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui vraiment de paix en Colombie ou pas encore?
Pas encore. Je crois que ça va mettre du temps.
pour les raisons suivantes. La première, c'est qu'on ne peut pas parler de paix quand il y a plus de 400 leaders qui ont été assassinés depuis 2 ans, des leaders sociaux qui sont assassinés pour exprimer leurs idées. Si on était dans une véritable contexte de paix, je crois qu'on tuerait plus les... C'est pas je crois, c'est qu'on tuerait plus les leaders pour leurs idées. La deuxième chose, c'est que les acteurs de la société civile demandent à ce que l'accord de paix soit garanti. C'est pas le cas. Troisième chose, depuis l'arrivée du nouveau gouvernement qui a à charge l'implantation de l'accord de paix, on assiste à une certaine lenteur dans les politiques publiques qui doivent être menées, dans le suivi des accords. Et donc, on n'est pas encore arrivé à un consensus dans les différents territoires sur la façon dont ça allait être mené. Et enfin, il y a encore des combats. Des groupes paramilitaires ou en tout cas de nouveaux groupes armés qui surgissent dans beaucoup de territoires. La guérilla de l'ELN qui est encore active et une absence des négociations qui ont été interrompues. Donc effectivement, on n'est pas encore du tout en contexte de paix.
Claire Launay, avant de travailler pour Transparency International, chapitre Colombie, vous avez travaillé pour le CINEP, cette organisation fondée par les jésuites. Vous connaissez bien la place de l'Église dans la Colombie. En quoi, selon vous, l'Église catholique peut jouer un rôle important dans ce processus de paix ?
D'abord, il faut distinguer l'Église catholique dans le sens institutionnel et les gens de l'Église. Je crois que c'est très important de faire cette distinction entre ce que dit l'institution officiellement et sa composition. Je pense que l'Église en Colombie est aussi diverse qu'elle l'est dans d'autres pays. Et beaucoup de gens d'Église ont participé depuis de nombreuses années, non pas seulement depuis l'accord de paix, à ce qui est une médiation. Beaucoup de jésuites ont participé à la médiation entre société civile, État, acteurs armés, et ils le font encore d'ailleurs. Et je crois que l'Église a une grande légitimité encore en Colombie. Les prêtres au niveau local jouent un rôle social fondamental, non seulement en termes de pastoral, mais aussi en termes de réconciliation entre les communautés, en termes de médiation, comme je viens de le dire, mais aussi avec des programmes sociaux d'aide au développement qui sont beaucoup, beaucoup développés dans le pays. Donc je crois que l'Église, c'est même sûr, a joué un rôle fondamental, non pas uniquement dans le cadre de l'accord de paix, mais bien avant. Elle continue à jouer ce rôle. Beaucoup appellent, notamment avec la guérilla qui est toujours en vie actuellement, l'ELN, à ce qu'il y ait une reprise des négociations. Les négociations ont été interrompues à l'issue de l'attentat qui a eu lieu en janvier 2019 à Bogota. Donc effectivement, l'Église joue un rôle. En tout cas, une certaine tendance de l'Église appuie le processus de paix. Maintenant, au niveau institutionnel, je pense qu'au moment du plébiscite en octobre 2016, où la population colombienne a été consultée, certains membres de l'Église auraient aimé que l'Église appelle davantage au oui à la paix. On aurait aimé une position un peu plus forte, non seulement la liberté de conscience, mais pour un sujet d'une importance telle que la paix, appeler au oui. Et je crois que le oui aurait gagné.
Exactamente, esa es la actividad.
Perfecto. Hacer seguimiento a los proyectos de
cooperación. En la que estaba anterior, hacer
C'est dans un immeuble moderne au centre de Bogota que se trouvent les bureaux de la Commission pour la recherche de la vérité, une commission créée par l'État colombien. Depuis novembre 2017, c'est un jésuite qui en a été nommé responsable, le père Francisco de Roux, reconnu pour son intégrité et son expérience au cœur des conflits. Le père de Roux dirige une équipe de 250 personnes qui ont la lourde tâche de faire advenir la vérité sur un conflit armé qui a fait 260 000 morts, plus de 70 000 disparus et 6,9 millions de déplacés. Le père Francisco de Roux nous explique le travail de cette commission de la vérité.
La mission de la commission, c'est l'éclaircissement de la vérité en Colombie, un éclaircissement qui est pas du tout simple, parce que nous devons essayer d'arriver à la compréhension de ce qui nous est passé en Colombie à cause du conflit, et aussi de faire d'une façon qui nous aide face à la confrontation parmi nous, a la reproducción de Lenin, de la polarización, mais à travailler ensemble dans la différence pour la construction d'un futur commun.
Mais est-ce que c'est une première étape à la réconciliation?
C'est ça, oui, exactement, c'est une première étape. Mais en plus, nous devons travailler à la reconnaissance des victimes, des droits des victimes et la reconnaissance des responsabilités. Nous devons travailler à la réconciliation dans les territoires, les différentes régions de la Colombie, et finalement à proposer des chemins pour la non-répétition du conflit.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de la manière dont vous essayez que la vérité ait lieu suite à ces conflits?
Oui, actuellement, partout dans le pays, la commission est déjà présente. Nous avons ce que nous appelons Maison de la vérité. Et là, on cherche dans la Colombie profonde les victimes silencieuses qui sont partout, qui soumises aux terreurs, à maintenir le silence. Et ça, c'est la première chose que nous faisons. Mais en même temps, nous sommes en train de développer et de préparer et commencer à développer des rencontres pour la vérité. Là, nous avons des victimes et des responsables, aux perpétreurs. Et nous mettons ensemble les uns et les autres pour les victimes présentent leur douleur et les responsables acceptent leurs responsabilités. Mais nous ne voulons pas du tout faire des espèces de spectacles, mais centrer les choses dans les responsabilités de ceux qui ont pris parti dans la guerre.
Et est-ce que ce n'est pas le rôle de la justice de faire ça? Est-ce que c'est le rôle d'une commission de vérité et de réconciliation?
Heureusement, en Colombie, le système accomplit les trois institutions. Il y a la justice spéciale pour la paix qui a la responsabilité d'éviter l'impunité. Ils font la justice. Nous, la commission de la vérité est simplement la vérité humaine et la vérité historique de ce qui nous est passé. Et il y a aussi l'organisation pour la rencontre des disparus. 72 000 Colombiens ont été disparus dans le conflit. Alors, nous accompagnons.
On ne sait pas ce qu'ils sont devenus.
Exactement, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont venus. C'est peut-être la souffrance la plus profonde dans la victimisation colombienne.
Et vous, vous essayez d'obtenir la vérité pour savoir ce que sont devenues ces personnes qui ont disparu.
Exactement, mais en plus, nous essayons d'arriver à l'explication de ce qui s'est passé. Pourquoi la Colombie, un pays catholique, basiquement, a arrivé à la destruction de la vie humaine d'une façon affreuse et horrible. Et exactement, nous cherchons l'explication des choses, pas simplement les données, pas simplement les mémoires, mais pourquoi ces choses sont arrivées parmi nous, quels sont les responsables. Mais nous cherchons les responsabilités institutionnelles, les responsabilités de l'État colombien, les responsabilités des politiciens. Mais nous ne faisons pas de jugement personnel. Nous ne condamnons personne.
Père Francisco de Roux, selon vous, quel rôle particulier peut jouer l'Église dans ce processus à la fois de la vérité et de la réconciliation?
L'Église a la capacité de convoquer les gens, surtout à pratiquer le pardon parmi nous. Et c'est pas du tout facile. D'abord, inviter les responsables à reconnaître et à participer dans la manifestation de la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la grande question des victimes. Pourquoi vous avez fait ça? Quels étaient vos intérêts économiques ou politiques pour détruire les communautés d'une façon telle que nous avons connue? Et l'Église doit être là, accompagnée à l'acceptation, à la métanoïa, au changement de conscience aux perpétreurs. mais aussi inviter les victimes à comprendre l'importance du pardon parmi nous et le pardon chrétien qui, à mon avis, exige accompagner ceux qui ont fait le mal à se transformer et à participer à la construction d'un pays.
Et la société colombienne est prête à vivre cela ?
C'est là que je pense qu'il faut travailler énormément sur la conscience des Colombiens. Mais si l'Église ne fait pas ça, personne ne peut le faire en Colombie.
Fondée en 1972 par les jésuites, le CINEP, le Centre d'investigation et d'éducation populaire, est un acteur majeur des programmes pour la paix en Colombie. Enquête, investigation, formation pour promouvoir la paix sur le terrain. Le CINEP a d'ailleurs été auditionné pour participer au processus de paix signé à La Havane. Son directeur, Luis Guillermo Guerrero, nous explique pourquoi, à l'image de la société colombienne, l'Église catholique de Colombie est divisée par rapport à ce processus de paix.
Nous pourrions faire deux analyses. Premièrement, à un niveau régional de l'Église catholique et ensuite à un niveau national.
Les églises locales, les diocèses, les vicariatos,
les églises locales travaillent très dur sur le processus de paix dans les zones de conflit. Les évêques, les prêtres, les religieux et les laïcs sont très impliqués pour que l'accord de paix constitue une évolution positive dans ces régions.
À niveau national, se peut faire autre analyse différente.
Au niveau national, on peut faire une analyse différente, parce que tous les évêques n'ont pas la même position concernant le processus de paix. Ces positions sont dues aux différentes conceptions de la paix. La paix, pour certaines personnes, est une paix avec une justice sociale, une paix profonde, une paix des territoires. Mais il existe une autre conception de la paix. C'est une paix négative, c'est-à-dire juste le silence des armes, mais sans transformation sociale claire depuis la base.
Entonces, cuando la conferencia episcopal lanza sus pronunciamientos,
lorsque la conférence épiscopale lance ses déclarations, tibios. Elle donne un point de vue peu clair.
Esto ha generado una no claridad.
Cela a généré un flou dans le positionnement de l'Église au niveau national.
Francisco de Roux, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce qui est difficile pour nous ? On a l'impression que tous les Colombiens veulent la paix et qu'en même temps, il y a des résistances très fortes, et on le voit avec ce nouveau gouvernement, à accepter les accords de paix tels qu'ils ont été signés en 2016. Pourquoi cela ? Qu'est-ce qui fait obstacle à la vraie paix ?
Bon, tout d'abord, il faut dire que la réconciliation s'est faite en Colombie, à La Havane. Ce qui était à La Havane, les gens du FARC, les guerrilleros du FARC et les représentants de l'État colombien, ils tous ont changé. Ils sont arrivés à une réconciliation parmi eux, mais la réconciliation de la société colombienne n'est pas arrivée. La société colombienne continue à être divisée, polarisée et peut-être à cause de l'absence d'une communication et d'une espèce de pédagogie pour faire comprendre à la société ce qui s'est passé, ce qui s'est passé dans les conversations. Il y a un point qui est radical. Toujours, le président, l'ex-président Uribe, il n'a jamais accepté l'existence d'un conflit armé. Il a toujours affirmé qu'il n'y a que deux terrorismes, qu'il n'y a eu des gens qui prenaient les armes pour des raisons politiques, qu'il y avait des rebelles politiques en Colombie. Il a toujours pensé qu'il n'y avait que du terrorisme et des intérêts de mafia. Et là, c'est le point le plus difficile, la grande difficulté. je dirais que la moitié du pays, sous la direction de Álvaro Uribe, qui est peut-être le principal politicien de la Colombie, pense qu'il n'y a eu un conflit politique en Colombie, un conflit armé politique en Colombie, que c'était seulement du terrorisme qui s'attaquait contre un pays démocratique et perfectement bien organisé. Et les autres, nous qui avons vécu la guerre, et qui pensons qu'évidemment, les guerrilleros, il y avait évidemment des bandits parmi les guerrilleros, mais la plupart des guerrilleros luttaient avec une pensée politique pour la transformation du pays.
Une amie colombienne m'a résumé cette problématique essentielle pour comprendre les obstacles à la paix en me disant ceci. Il y a deux visions différentes de la paix en Colombie. Ceux qui pensent que la paix ne pourra avoir lieu que si la société colombienne se transforme radicalement en luttant contre les inégalités, la pauvreté et la corruption. Et ceux qui pensent que la paix signifie le silence des armes, mais sans rien changer à la société. Père Francisco de Roux, qu'est-ce qui, selon vous, est le problème principal qui empêche la paix définitive en Colombie ?
À mon avis, la souffrance a produit en Colombie un traumatisme culturel. Parce que la souffrance de la victimisation est partout dans la société, dans toutes les classes sociales. Les riches, la classe moyenne, les paysans, les indiens, les noirs, partout. Toutes les familles en Colombie, d'une façon ou d'autre, ont vécu la violence en Colombie et ça a divisé complètement la société, surtout à cause des politiciens qui ont développé des langages et des messages qui se confrontent. Et ça passe partout en Colombie, par la télévision, par les journaux, et ça nous a divisé, mais d'une façon émotionnelle, très profonde. Le pape Francisco, quand il est venu en Colombie, il a compris très bien la situation. Il a passé un message qui était au-dessus de notre traumatisme culturel. Mais son message a été formidable le jour quand il a passé toute la journée avec les victimes. Il a été ici 4 jours et il a dédié une journée complète à écouter simplement les victimes.
Et les victimes de tous les camps.
Les victimes de tous les camps. Pour nous faire comprendre une chose, quitter la discussion politique, aller voir les victimes, aller voir les gens qui ont souffert en Colombie si profondément. Et à Medellín, il a fait un message très clair aux évêques. Et le message était arrêter de passer des normes de comportement pour les Colombiens. Si vous pensez qu'avec des normes de conduite, vous allez surmonter la situation, posez votre main sur le corps sanglant de votre peuple. C'était pour nous dire, c'est la souffrance humaine qu'il faut accompagner actuellement en Colombie. C'est là que vous pouvez surmonter le traumatisme culturel et les discussions qui n'arrivent à rien.
C'est comme ça que vous comprenez votre mission ?
Exactement. Oui, c'est ça.
Le 29 août 2019, après l'enregistrement de ces reportages que vous venez d'entendre, d'anciens chefs de la guérilla des FARC ont annoncé qu'ils reprenaient les armes, dénonçant, je les cite, la trahison par l'État du processus de paix signé en 2016. Une paix qui semble malheureusement s'éloigner de plus en plus en Colombie. Un grand merci au père Francisco de Roux, à Mgr Henao, aux membres du CINEP et à Claire Launay pour leur accueil à Bogota. Merci à l'AED, l'aide à l'église en détresse, qui a rendu possible ces reportages, et en particulier à Maria Inés Espinoza Calle à Bogota et à Marc Fromager en France. Merci également à Diane Uzel et à Estelle Berger pour les traductions dans ces 3 reportages et à Philippe Faure qui en a assumé la réalisation technique.